Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
La personnalité que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui est un multi-instrumentiste de talent, saxophoniste, flûtiste, clarinettiste, pianiste, harmoniciste. Il est canadien d'origine haïtienne et son goût pour le brassage des cultures provoque chez lui une inspiration débordante qui lui permet de composer continuellement des œuvres ouvertes sur le monde et les traditions ancestrales. Son dernier album s'appelle Love Matters et nous sommes enchantés de recevoir aujourd'hui Joey Omicil. Soyez le bienvenu.
Oh yeah, merci de me recevoir Joe. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui.
Vous n'êtes pas venu seul, puisque vous êtes en compagnie de la directrice artistique d'un festival haut en couleur, Jazz Color, dont nous allons parler dans quelques minutes avec Annick Tangora.
Merci d'être
jamais
avec seul.
Nous. Merci à tous. Merci.
Je parlais en introduction, Joey Omicil, de votre ouverture d'esprit. D'où vous vient ce désir de croiser les cultures?
Bon, ce désir-là, au fait, c'est inné, j'ai l'impression, parce que déjà, mes parents, ils voyageaient beaucoup. Mon père a beaucoup voyagé, au fait. Mon père était non seulement enseignant, mais il est aussi psychologue, il est pasteur et puis théologien. Mais avant, il voyageait beaucoup, quoi. C'est un voyageur, il allait au Togo, il a voyagé des États-Unis dans le temps. En partant d'Haïti, il faut comprendre que ce n'était pas facile de voyager. Il a vécu, même voyagé dans des îles aussi, Bahamas, différentes îles. Et puis partout en Haïti, c'est un des gars qui a visité tout Haïti, qui est une île qui n'est pas facile à visiter aussi à l'époque. On parle de 1940, pour ceux qui ne savaient pas. Puis je pense que c'est de là où me vient l'envie de voyager, mais pas seulement voyager en tant qu'être humain, mais aussi voyager musicalement.
Pensez-vous que vos racines haïtiennes, donc cosmopolites, mm-hmm. ont façonné votre altruisme, votre écoute, votre ouais. personnalité plurielle?
Définitivement, ma racine haïtienne, c'est dans le sang. On sait que les Haïtiens, c'est un peuple de plusieurs peuples, aimé de plusieurs autres nations. Et en même temps, c'est un peuple qui a reçu et puis qui a aidé aussi plusieurs peuples dans l'histoire même, qui a même aidé les Américains. Alors on en passe, tu vois, les Vénézuéliens. C'est un peuple qui a toujours tendu la main aussi. Je pense que culturellement, on fait ça, même nous, culturellement, dans notre son musical, on fait ça. Alors moi, je pense que je suis juste en train de vraiment rien réinventer, mais en train de perpétuer cette tradition que les Haïtiens ont toujours eue, quoi. On est des nègres Congo, on est des nègres Guinéens, ça veut dire on est fort et puis on aime l'aventure, on aime aller chercher, aller s'approvisionner d'autres trucs pour pouvoir créer un autre truc à partir de rien. Alors je pense que c'est tout ce qui se passe dans mon entendement musical, si je peux le placer comme ça. puis je me sens bien comme ça. Je ne veux jamais être en place non plus. Je ne veux jamais être casanier au point de vue musical, non. À partir du moment qu'on est en scène, j'aime dire que c'est vraiment le sentier de la justice. C'est là que ça se passe, puis c'est la vérité pure et simple. Et puis ça, c'est vraiment un voyage. On ne sait jamais où ce qu'on va. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on va s'amuser, puis on va voyager.
Vous qui évoluez dans l'univers caribéen, Annick Tangora, qu'entendez-vous dans la musique de Joey au missile ?
Pour moi, c'est un jazzman, hein, tout simplement, avec toutes les couleurs que le jazz apporte. Tu viens d'une tradition jazz aussi, et même s'il y a des influences tes racines, etc. Mais il y a aussi tout le jazz, la culture américaine, afro-américaine, qui est présente chez toi quand même. Tu n'as pas de limites, tu n'es pas dans les conventions, tu restes... C'est quelqu'un de très riche musicalement, donc... Ben, j'avais envie de l'inviter. J'espérais qu'il soit libre pour le festival, puisque c'est un festival qui est tout jeune. Donc, j'ai demandé à Joey s'il était OK pour participer à ce projet. Et puis, Mario Canonge, qui est aussi le parrain du festival. Bon, tout le monde soutient ce petit festival, en fait, c'est ça.
Ouais, c'est super.
Petit par la taille, mais grand par le cœur.
Nous avons débuté cette émission avec Mandé Lolo, extrait de Love Matters. À qui faites-vous référence sur ce titre ?
Mandé Lolo, je fais référence, c'est un hommage à Yuma Sekela. C'est vraiment le genre de son que j'aurais pu imaginer You avec son flugelhorn. Je l'imaginerais tout de suite le jouer, quoi.
Vous l'avez connu, vous l'avez croisé ?
Oui, grâce à Dieu, merci. J'ai croisé Yuma Sekela, on a eu des conversations. Mais un truc qui m'a vraiment touché avec Yuma Sekela, c'est la première fois qu'on se rencontre, c'était à l'UNESCO. C'était la première fois qu'on se voit, je suis dans le backstage, il y avait Al Jarreau, il y avait Marcus Miller. C'était la dernière année, je pense, qu'Al Jarreau a fait justement.
Donc c'était en 2015 pour la Journée internationale du jazz.
C'était à l'UNESCO ici à Paris, paix à son âme, Al Jarreau. Et puis, en fait, il y avait d'autres acolytes, il y avait Diana Reeves aussi qui était là. Mais Yuma Sekela, il rentre dans le backstage. J'étais pas sur scène avec eux. Je veux pas que les gens pensent que j'étais sur scène. Mais j'étais backstage, quoi. Il me voit tout de suite, puis il dit « Hey, my brother, how you doing ?» Avec sa voix comme ça, là. Puis il me tient comme ça pendant environ 15 secondes. Mais ça, à l'heure, c'était comme une minute, quoi. Il m'a tenu, il m'a serré dans ses bras. Puis il a dit « I've been looking for you. How you doing, man ?»
Je te cherchais depuis si longtemps,
dit-il. Puis moi, dans ma tête, je suis en train de dire « Mais quoi, il se trompe de gars. Mais... How you doing, man? What's your name ?» Ça veut dire, je vois qu'il ne me connaît pas, là. Il dit « What's your name ?» Je dis « I'm Joey, you know. » Et puis il dit « Man, so great to meet you, man. How you doing? What are you doing, man? Are you going tonight to the show ?» Parce qu'il avait d'autres shows qu'il faisait. J'ai dit « Man, I'm there. »
Alors, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Joey au missile. Qu'est-ce que tu fais ici ? Est-ce que tu vas venir jouer sur scène avec nous ce soir, etc., etc.
Et puis moi, je suis resté bouche bée. Puis Marcus m'a regardé comme ça.
Marcus Miller ?
Ouais, Marcus Miller m'a regardé comme... Yo, parce que moi et Marcus, on se connaît depuis 1997-98, c'est bon. Puis il a dit « Yo !» Parce que même lui a dit « Ouais, c'est Yuma Sekela, yo !» Puis au fait, pour moi, c'était juste une autre ouverture mentale et spirituelle. Mm-hmm. Parce que Ornette m'a fait la même chose, Ornette Coleman. Il m'a dit « Hey, où est-ce que t'étais ? Je t'attendais. » Et puis je venais juste lui dire « Hey, merci pour ta musique. Je t'attendais. » Puis il m'a donné son adresse. Puis j'ai dit « Mais c'est quoi les chiffres qu'il me donne ?» Lui, il fait un autre truc. Son fils a dit « C'est son adresse. Tu comprends pas ? Viens à la maison. » Mais je suis vraiment béni.
Sur chacun de vos albums, il y a un clin d'œil à vos héros, Fela Kuti, Miles Davis, Roy Hargrove. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un héritier, un élève ou juste un admirateur pour tous ces grands personnages ?
Tous ces derniers dont tu parles, que tu nommes, je suis admirateur, je suis étudiant. Comme Miles, je n'ai jamais eu le temps de le serrer de la main. J'étais né, mais je n'étais pas encore dans la musique.
Vous n'étiez qu'un gamin.
J'étais un petit gamin, quoi. Je commençais peut-être à peine à penser que j'allais souffler le saxophone. Au fait, c'est avec Roy Hargrove que je suis venu pour la première fois en tournée en Europe. Lui, il m'a donné vraiment une opportunité impayable.
Trompettiste de grande valeur, disparu le 2 novembre 2018. Qu'apportait-il à l'histoire du jazz, selon vous ?
Vraiment, Roy, je peux le donner ça. Lui, il a mis de l'emphase encore, il a ressourcer le groove encore. Parce qu'il est venu vraiment incisif dans le groove. Rien de nouveau, mais il a commencé à faire beaucoup de mariages. Tu vois, il a fait un truc avec Turrentine, Joe Henderson.
The Tenors of Our Time.
The Tenors of Our Time. Quel album. Ouais. Et puis en même temps, il a mis Joshua Redman dans cet album-là. Quoi, c'est un album vraiment top, tu vois. Il a fait d'autres choses avec des Cubains, avec Oscar Peterson. Moi, vraiment, c'est cet effet surprise, je pense qu'il a vraiment apporté, à part le groove dur, quoi. Cet effet, ce mélomane qui se réinvente constamment, comme Miles. Mais il a juste pris le truc, il a évolué avec, quoi.
Il connaissait bien Paris. Il a même écrit, si je me souviens bien, un titre qui s'appelait Strasbourg-Saint-Denis.
Strasbourg-Saint-Denis.
C'est un quartier de Paris, on le rappelle. Depuis que vous vivez à Paris, Joey Omicil, est-ce que vous avez le sentiment d'être plus proche de la diaspora africaine?
Absolument. J'en parlais justement avec le chauffeur taxi, qui est haïtien d'ailleurs. Et puis c'était trop drôle. Puis j'ai dit, c'est le truc que j'aime justement le plus à Paris. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous êtes à Paris, vous êtes partout au monde. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans le 10e, vous trouvez les Indiens, je pense, si je ne me trompe pas, à Belleville, les Chinois, et puis à Château-Rouge, 18e, on trouve l'Afrique, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Les quartiers sont nombreux où ce qu'on trouve différentes nations. Et puis, plus qu'à New York, plus que n'importe où je suis allé au monde, ça se passe à Paris.
Prenons Pipi Lita sur l'album Let's Bash.
Ouais.
D'où vient ce rythme ?
Ce rythme, j'ai juste mis le rythme compas sur une pièce originale de Luis Moraes. Au fait, c'est un compas zouk. Moi, j'aime ça dire compas zouk parce que les deux, c'est la même chose pour moi. Et je pense que le rythme compas, il existait déjà en Afrique, quoi. C'est juste nos esclaves qui l'ont déménagé. Parce que aussi, il ne faut jamais oublier qu'au Cap-Vert, c'est où ils ont construit les premières églises. C'est où que les esclaves allaient justement pour se faire purifier et construire des églises avant de voyager à la terre promise, entre guillemets. Définitivement le compas, ouais, du Cap-Vert aussi. Ça vient de l'Afrique, quoi.
C'est en tout cas une ritournelle qui reste dans la tête. Pipilita, emprunté au Cap-Verdien Luis Moraes par Joey Omicil d'Haïti. La musique ne cesse de voyager et c'est ce qui nourrit la créativité des musiciens. Et je ne pense pas que vous me contredirez, Yannick Tangora, puisque votre statut de chanteuse vous a conduit à collaborer avec des artistes venus d'horizons très divers. Qu'avez-vous appris par exemple au contact de Mario Canonge, Adriano Tenorio, Ralph Tamar ou en écoutant tout simplement aujourd'hui Joey Omicil à notre micro ?
Ah ben là, je suis entourée de masters, des maîtres de la musique. Donc, c'est vrai que j'ai commencé jeune. J'ai baigné dans une ambiance familiale très jeune de la musique, musique latine, etc., depuis que je suis petite. Et la musique brésilienne aussi, etc. Le père de mon fils s'appelle Bressouassi, donc c'est un monsieur que tout le monde sûrement connaît, qui est batteur. Donc j'ai travaillé avec des groupes africains très jeunes, très tôt, et des groupes brésiliens avant de travailler après avec Mario et Ralph, etc. Et donc, bien sûr, tout le monde m'a apporté ce que je recherchais, en fait. Je cherchais la belle musique, les belles mélodies, et le groove, le rythme. Parce que tous ces rythmes-là sont compliqués. Quand on ne les connaît pas ici, c'est ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il faut faire découvrir ces rythmes-là, ces musiques-là. C'est ce que je défends aussi en tant que professeur, parce que j'enseigne le chant. Je fais apprendre à mes élèves le jazz, mais aussi toutes les musiques latines, caribéennes. Ils apprennent la langue, je leur fais travailler le créole, le portugais, tout ça. Et c'est ce que je mets dans le festival. C'est le festival... Tout est logique, en fait. J'invite mes élèves pour qu'ils puissent s'exprimer aussi sur scène. Je fais que les magnifiques musiciens que j'invite, qu'on ne voit pour moi pas assez dans les festivals en France, puissent rayonner. Évidemment, c'est moi, c'est tout modeste. Hein. Mais ça ne fait rien. Ça fait que j'amène ma petite pierre aussi à la musique et à la culture afro-caribéenne.
On le dit depuis le début de cette émission, la musique n'a pas de couleur, mais dans ce monde en pleine ébullition, est-ce que ce discours-là est entendu ?
Est-ce que ce discours-là est entendu ? Je pense bien que oui. J'aime dire que la musique est remplie de couleurs, et puis toutes ces couleurs-là peuvent coexister. C'est un canvas qui est vide, et puis nous, on en voit des couleurs avec nos pinceaux. Et nos pinceaux deviennent des instruments maintenant, et puis on fait ça. Qu'est-ce que le spectateur ou bien l'auditeur en soutirera? On ne sait pas, mais on sait qu'il va en soutirer quelque chose. Et puis, c'est vraiment là que la liberté sort. On est libre d'en concevoir ou bien d'en déduire ce qu'on veut.
On devrait réfléchir à ce qu'on donne aux gens pour qu'ils puissent se nourrir davantage. Le problème, c'est qu'on donne, enfin ça c'est mon avis, mon humble avis, c'est qu'on donne beaucoup de mauvaises choses à écouter. Et que du coup, ben, on appauvrit l'esprit, on appauvrit les gens. Et que nous, notre combat, c'est de continuer à travailler là-dessus et de faire ce qu'on aime et de le faire partager. Ensuite, c'est aussi aux autres de relayer ça, c'est-à-dire de tirer les choses vers le haut.
Je veux dire un autre truc. Souvent, les gens, souvent, pas tout le temps, ils viennent par curiosité. Mais à la fin, ils sont toujours « Waouh ! Oh man, c'était super, vraiment, on a voyagé !» C'est vrai qu'ils viennent des fois un peu par curiosité, mais après, à la fin de la soirée, ils sont conquis. Ça, c'est vrai.
Alors, prenons Mozart Bach.
Mozart Bach.
Comment réagit le public qui ne connaît pas la symphonie numéro 40 de Mozart ?
Ils réagissent. Les gens sont plus intelligents qu'on le pense des fois. Parce que moi, souvent, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Est-ce qu'ils vont comprendre vraiment ce groove-là ? Comment tu l'arranges ? Ils comprennent, mais ils ont toujours un truc à dire.
Est-ce que certains puristes ont crié au sacrilège en entendant votre version de la symphonie numéro 40 de Mozart ?
Non, pas encore. Ça me surprend pourtant. J'attends ça comme la pluie sur un terrain desséché, quoi. Peut-être là, je suis chanceux, quoi.
Peut-être. Eh bien, laissons nos auditeurs juger par eux-mêmes.
Yes. We'll be right back.
Mozart Bach, une adaptation audacieuse du premier mouvement de la symphonie numéro 40 de Mozart, par Joey Homicile, notre invité dans l'épopée. Votre ami Quincy Jones, lui, parle des 3 B, Beethoven, Brahms et Bach. Est-ce que vous avez eu l'occasion de converser de cela avec lui lorsque vous avez présenté la soirée de ses 85 ans à Montreux ?
Waouh, ça c'est cool d'entendre parler de ça. Non, on n'a pas parlé de ça à Montreux. On a parlé de plein de choses, Quincy et moi, mais vraiment, ce qui l'intéressait, c'était le mélange, quoi. Parce qu'il m'a dit, attends, il y a un moment donné, là, il y a eu des danseurs qui sont venus, mais ils étaient mélangés. Il y en avait une qui était un peu asiatique. Elle est d'où? C'est du Japon, ou bien la Chine, ou bien le Vietnam. Attends une minute. Tu sais, avant, on montait, Alexander et moi, on jouait au Copacabana à New York, et puis on allait jammer, on jouait toute la nuit ensemble. Tu sais, il me racontait des histoires comme ça, quoi. Ça, c'est deux petites épopées que je vous ai données. Fait que, on n'a pas parlé de Brahms, ni de Bach, mais, ni de Beethoven. Mais je pense que ceux qui ont rencontré Quincy, tous ces gens-là sortent de lui, quoi. C'est comme si tu rencontres une encyclopédie musicale ambulante qui n'a même pas besoin de parler, tu sens l'énergie déjà, quoi.
Il y avait du beau monde, en tout cas, sur scène ce jour-là. Monty Alexander, immense pianiste jamaïcain. Richard Bona, grand bassiste camerounais. Les Américains, Robert Glasper, Christian Scott et quelques autres. Joey Homicile, vous avez 42 ans, mais vous avez déjà vécu 1000 vies. Est-ce que vous envisagez de vous raconter à travers un livre ou un film ?
Bon, ben, waouh, ce serait cool. Il y a C'est le Bach qui est sorti dans plusieurs festivals de films, dont celui de Cannes, le Panafricain Cannes Festival le mois dernier. Il va être à Roxbury en Massachusetts, il va être au Canada aussi, à Montréal, dans d'autres festivals de films. Il est aussi en Suisse dans un festival de films. J'oublie les noms, vous m'excuserez. Mais c'est This is the Bach, en traduction, C'est le Bach. C'est le premier film qui est sorti sur ma vie jusqu'à présent, quoi. Et puis c'est super cool, ça a été dirigé par Mario Leighton, qui a beaucoup bossé avec Spike Lee, pour ceux qui sont les films geeks, quoi. C'est des choses vraiment intéressantes pour moi de travailler dans le film, quoi. C'est un truc que j'ai toujours aimé, quoi.
Quelle est la rencontre qui vous a le plus apporté dans votre vie ?
On va dire, il y en a plusieurs. Ornette, Kenny Garrett, Pharoah Sanders, Freddie Hubbard.
Donc beaucoup de trompettistes et de saxophonistes.
Beaucoup de trompettistes, quoi. Mais un truc qui m'avait vraiment frappé avec Freddie Hubbard, même George Benson, lorsque j'ai rencontré, c'est que ces gars-là, lorsqu'ils te rencontrent, c'est soi qui sent ton énergie invisible. Écoutez-moi bien, c'est pas visible, quoi. Ça veut dire ceux qui vont arriver, « Yo, madame !» C'est pas ça qui rush. Au fait, je pense qu'ils voient un truc invisible que tu vois pas à l'œil nu. Si tu vois qu'ils restent à distance, laisse-les tranquilles.
Exactement.
Va pas essayer de chercher, quoi. Je me souviens, Bobby Hutcherson, il était en studio avec Pharoah, puis Mulgrew Miller, père son âme. Tous ces gars-là, lorsque je les ai rencontrés, ils m'ont tout de suite embrassé. Ou bien Bobby, il était un peu à distance. Mais après, quand il a vu que j'étais cool avec Pharoah, puis Kenny, il disait, « Hey, man, you sounded good tonight, man. » Il était vraiment... Il parlait pas beaucoup, Bobby Hutcherson. Tu vois, ils ont tous leur style, quoi. Même Brian Blades, ce sont des gars tranquilles, quoi. Ouais. Voilà.
Même question pour vous, Annick Tangoura. Quelle est la personne qui vous a le plus apporté durant votre vie d'artiste ?
Très jeune, j'ai écouté des mamans comme Ella, Billie Holiday. Bon, j'ai mangé toutes ces musiques-là depuis que je suis petite. J'ai travaillé avec beaucoup de Brésiliens aussi. Et tous les musiciens avec qui je travaille m'apportent tout le temps. Et je demande ça parce que je travaille mon piano gentiment. Mais j'essaie d'être au niveau des musiciens parce que ils ont tellement de choses à nous apprendre. Comment ils détournent les choses, comment ils les... Où ils les emmènent, c'est pour moi des modèles, quoi. Donc nous, les chanteurs, il faut s'inspirer des musiciens, instrumentistes aussi. Thank you.
Oui. Un dernier extrait de Love Matters signé Joey au missile. Je signale que vous vous produirez bientôt dans un festival qui ne cesse de grandir. C'est Jazz Color à Grolet, dans le Val d'Oise, au nord de Paris. Vous y serez le 1er juin prochain et vous partagerez l'affiche avec Annick Tangora et Mario Canonge. Mario Canonge qui se produira le lendemain, dimanche 2 juin, en trio, toujours à Grolet, à 15 minutes de Paris depuis la gare du Nord. Comment est né ce festival, Annick Tangora? Quelle en était l'intention?
Eh bien, j'étais la petite ville où j'habitais, Grolet. Je ne dis pas qu'il ne se passait rien quand même, je ne peux pas faire ça. Mais je voulais proposer un peu de musique dans ce petit endroit du Val d'Oise. Pendant 2-3 ans, j'ai essayé de les mobiliser. Et puis finalement, le maire a dit oui, tout le monde a dit ok. Et puis c'est parti, on a commencé comme ça.
Je rappelle en tout cas que Jazz Color, c'est à Grolet, donc les 1er et 2 juin prochains, c'est-à-dire dans 8 jours. Et puis, vous participiez il y a peu au Caribéen de mai au Baiser Salé à Paris.
Ah oui, là c'est avec Alain Jean-Marie en duo parce que je chante avec lui sur ses compositions où j'ai écrit des textes sur ses morceaux.
Ça s'est bien passé ?
Ah ben ça se passe bien, ça fait quelques années que je travaille avec lui et là on est en train de préparer un album. Voilà.
Suprême.
Et le festival se poursuit avec Mario Canonge le 29 en duo avec son ami Michel Zénino, Étienne Bappé les 30, 31 mai et 1er juin, Roger Raspail le 13 juin et Mario Canonge à nouveau avec Cannes, groupe des années 90, hein, si
oui,
je ne dis pas de bêtises,
oui.
En bouquet final du festival des Caribéennes de mai du Baiser Salé. Merci à vous deux d'être passés nous voir.
Merci, merci beaucoup de nous avoir accueillis.
Et revenez plus souvent.
Merci de nous avoir reçus.
La semaine prochaine, nous nous ferons l'écho de la 38e édition du festival Jazz sous les pommiers qui a débuté ce week-end à Coutances en Normandie au nord-ouest de la France avec en ouverture Angélique Kidjo. Mais il y aura aussi Melvin Taylor, Raphaël Imbert, Joshua Redman, Alfredo Rodriguez, Fatoumata Diawara et Ron Carter entre autres. Toutes les infos sur le site jazzsouslespommiers.com. Par ailleurs, le Paris-New York Heritage Festival approche. Ça commence le 6 juin à Johannesburg et ça se poursuivra à Paris, New York, Los Angeles, Montréal et Vancouver jusqu'au 6 juillet avec une thématique forte, le militantisme à travers la culture. On vous en dit plus très prochainement. L'émission du jour était réalisée par l'Esprit Libre de Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.